Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos, l'émission qui fête son anniversaire dans 2 jours à la sortie des films.
Wouhou !
Mais comme c'est dans 2 jours, ben on le fête pas maintenant.
Oh.
Et promis, on ne fera rien de spécial la semaine prochaine.
Ouais.
Non, parce que dans le mois on va déjà faire un gros festoche, déjà ça sera pas mal. Et on va pas faire comme tout le monde et sortir un bêtisier quand même.
Non, mais Pierre, on en a pas d'ailleurs. Nous on dit que des choses sérieuses, on coupe jamais rien dans nos épisodes.
Exactement, on met tout en brut. Voilà, c'est absolument pas le genre de la maison.
Cette semaine dans Clac, de l'action, de la guerre, sœur d'armes.
Du drame, du dialogue, du sentiment du couple parisien avec Chambre 212 de Christophe Honoré.
De l'animation pour petits et grands avec la fameuse invasion des ours en Sicile.
De l'espionnage avec Domino, la guerre invisible. Le dernier film de Brian De Palma, qui risque d'être invisible lui aussi.
Et un rattrapage politique avec Alice et le maire.
At that time, I did not know what they could do to us. And how much this war was about to change me.
Who are those fighters?
Special Forces Unit.
It is a feminist revolution, right?
Our revolution has no boundaries.
For thousands of years, war has been waged on women's bodies. But here, for once, they fear us.
Let me be killed by a man.
There is no man here.
Please.
Sœur d'armes. Un film de Caroline Fourest avec Amira Kazar, Camélia Jordana et Dylan Gwine.
L'action se situe en 2014, alors que la coalition internationale lutte contre Daesh. Et nous allons suivre l'escouade des serpents, une brigade entièrement féminine de l'armée kurde, soutenue par la coalition internationale, qui lutte contre les djihadistes.
Elles se battent parce que les femmes kurdes se battent depuis des siècles pour l'indépendance de leur pays comme les hommes, et que quand t'as un peuple qui se fait massacrer en permanence, tout le peuple se bat. Mais on va dire que le petit bonus, et pourquoi ils font des escouades spécialement pour des femmes, c'est justement parce que c'est des escouades qui font le plus peur aux djihadistes.
Donc Caroline Fourest, la réalisatrice, est avant d'être cinéaste, journaliste. Elle a beaucoup travaillé sur justement le phénomène des extrémistes, qu'ils soient musulmans, catholiques ou autres. Et évidemment, c'est normal que ce soit le cœur de ce sujet-là. Qu'en est-il justement de ce film? Est-ce que le sujet est bien traité? Est-ce qu'on s'y retrouve?
Caroline Fourest, tu as dit c'est une journaliste, mais c'est une journaliste militante. C'est une journaliste qui porte ses combats, qui ne se cache pas de ne pas être impartiale. Et ce film n'est pas impartial. Ce film est clairement, alors je sais pas si on peut dire pro-kurde, mais en tout cas sympathique envers les Kurdes, clairement féministe. De toute façon, venant de Caroline Fourest, l'inverse m'aurait étonné.
Sympathique envers les Kurdes, oui, parce qu'on va suivre une brigade kurde, mais pas complaisant à 100% pour autant. On parle des Yézidis, c'est ça, qui sont poursuivis par les djihadistes, mais qui sont poursuivis à peu près par tous les pouvoirs qui occupent la région. Et même les Kurdes ont voulu exterminer les Yézidis. Donc,
c'est une sorte de sous-catégorie de Kurdes qui, contrairement à l'immense majorité du peuple, ne s'est pas converti à l'islam, et du coup, ils se sont pris des marrons de la part de tout le monde.
Même ça aussi c'est dit, donc tout n'est pas tout blanc dans la région.
Ah non, mais on voit même un moment où, clairement, les troupes anti-djihadistes bombardent des civils, et où c'est clairement dit, et où on voit des combattantes qui viennent de France, deux actrices françaises, mais on voit aussi des djihadistes, un anglais et un français. Le risque, c'était de faire un effet catalogue. Et on va montrer qu'il y a aussi ce type de djihadiste, et aussi ce type de combattant, et aussi ce type... Et il y a un côté catalogue. On voit des femmes qui combattent du côté des djihadistes ou contre. On voit des hommes qui combattent pour ou contre. Mais c'est vraiment amené naturellement. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir et te dire « Tu vois, lui, c'est un homme, mais il se bat avec nous, des femmes, parce que lui... nous... » Non, c'est bon, tu l'as compris, ça va.
Moi, tu vois, Bobby, je suis américain depuis tant, et en fait, moi, je fais ça et ça. Oui, non, mais je sais, ça fait 2 mois qu'on combat ensemble, je suis au courant.
t'as une scène qui fait un peu ça quand elle se présente, et à la limite, c'est des trailer shots plus qu'autre chose.
Oui, puis il y a des jeunes filles, puis il y a des nouvelles qui arrivent dans les squads, donc c'est normal.
Mais c'est pas comme quand on avait vu connue pour d'autres films, Les Hirondelles de Kaboul. Mais enfin, tu te rappelles bien que nous sommes amis depuis que nous avons 4 ans. Bah oui, j'étais là. Caroline Forest est attachée à la République française, enfin, à France en tant que République. Et c'est ce qu'on voit avec les deux personnages françaises. Il y en a une juive et une musulmane. Et il n'y a aucune discussion, aucun moment entre elles sur les différences de leur religion.
Il y a 2-3 vannes.
Il y a des vannes, justement.
Il y a 2-3 vannes, mais comme moi, je fais des vannes sur ton accent du Sud, quoi.
C'est, oui, voilà, oui.
C'est pas franchement quelque chose d'agressif. Par contre, elles discutent du fait qu'elles sont françaises et que leurs valeurs leur viennent de la France et pas de leurs croyances ou de leurs origines.
Le film, moi, je le vois comme un appel aux armes, en fait. Surtout, c'est aussi pour ça que c'est militant. Et c'est en ça que le film est bien plus intéressant à montrer dans des pays actuellement en guerre et actuellement sous l'occupation, par exemple, d'un groupuscule comme Daesh ou de n'importe quel, au final, groupuscule extrémiste. Ça te montre, en fait... Enfin, le point de vue vraiment que j'ai trouvé abordé, bon, c'était tout l'arc autour de Zara, donc qui est le personnage principal hein, quand même, qui va se retrouver enlevé, vendu, violé régulièrement par un djihadiste, qui va réussir à s'enfuir et qui, une fois qu'elle a retrouvé sa famille, se dit non, c'est fini, je vais pas rester là, je vais prendre les armes et combattre avec elle. Et qui du coup va devenir également une guerrière qui va devenir très forte grâce à ça, qu'il était déjà. De toute façon, tout ce qu'elle a réussi à accomplir, c'est parce qu'elle est forte. Et c'est ce qu'on lui dit à un moment. Je pense que ce film, voilà, est important pour toutes les femmes qui se disent la guerre c'est pour les hommes et c'est pas notre combat, et qui justement, si elles commencent à subir ça, peuvent se dire aussi, moi aussi je peux prendre les armes, moi aussi je peux combattre. C'est en se réveillant et c'est en se relevant qu'on va foutre la pâtée à tout le monde, parce que tout le monde va s'être à avoir peur, et ce qu'il faut c'est, ils veulent nous faire un règne de terreur, à nous de faire le nôtre.
Et on en voit souvent des films militants, on en voit souvent des chiants, et ça c'est un film militant mais c'est aussi un film de guerre. Et franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film de guerre, avec de bonnes scènes d'action. Une fusillade en soi, c'est pas facile à rendre excitant, parce que deux personnes accroupies, un derrière une bagnole, l'autre derrière un muret, va rendre ça fun. Et là, franchement, bon, on va être honnête, hein, les djihadistes, c'est un petit peu nos nazis à nous maintenant. C'est-à-dire, ça nous pose pas vraiment de problème de les voir se faire défourailler par paquet de 12 dans quelques scènes un petit peu jouissives.
Il y a ce côté un peu film d'action où elle sort à 5 de face, elle défouraille une cinquantaine de mecs. Bon, allez, c'est bon, ça va.
Ouais, et après, elle galère face au Moulay de cinquantenaire qui boite un peu. La comparaison n'est pas flatteuse, mais... En bien fait, c'est un petit peu du commando avec
oui,
Arnold, quoi.
J'ai pensé à ça. C'était là ça que je pensais, oui.
Ouais, mais moi, pendant le film, c'est... Ouais, elles y vont avec le gun, elles sont au milieu de la rue, les autres, ils ont un tank, elles en ont rien à foutre. C'est... En vrai, c'est marrant aussi. Et le message passe d'autant mieux que le film est kiffant à voir et que t'as envie de t'intéresser un petit peu à ce qu'il dit entre les moments où ça pète.
Oui, d'autant qu'en plus, donc je le rappelle, Caroline Forest est journaliste, donc tout ce qui est dans le film est documenté. Le mec qui passe dans les rues avec un haut-parleur et qui donc édicte la loi, qui énonce toutes les lois. Et alors, bon, au début, c'est des trucs, il faut pas s'amuser, faut pas jouer aux cartes, tout ça. Du coup, il y a des vieux dans la rue qui jouent avec des fruits, tu vois. Parce que s'ils se font gauler, c'est pas vrai. Et à un moment, et ça part sur des trucs complètement délirants, du style pas manger des tomates si quand on les coupe, ça fait une croix. Alors, et il y en a un qui était extraordinaire, c'était ne pas violer les cadavres. Bon, ben ça, fait ne pas faire la mort des cadavres, oui. Plus d'une heure après leur mort. Quoi ?
Ça, c'est... Attends, parce que faut bien dire, c'est comme toutes les lois. Il y a un moment, il y a un mec qui s'est levé et qui a dit j'ai une idée. Et les autres l'ont écouté, ils ont dit ouais, grave.
C'est surtout, ouais, fait,
bah oui, c'est ça,
qu'il y a des précédents et qu'il y en a un qui dit ouais, ça on va l'autoriser, quoi.
C'est ça, c'est. Enfin, moi, un mec céleste, je crois que c'est en Colombie où il est illégal de coucher avec sa femme et sa fille en même temps. Moi, je suis à l'Assemblée, je prends bien le nom du gars qui propose la loi. Hein. Il y a des choses.
L'amendement en même temps, surtout. Donc on est sur le côté délirant de ce qu'on a en face. Oui, ce sont nos nazis, quoi, carrément. Et pourtant, là, on n'est même pas dans le faux. C'est même pas de l'exagération. C'est vraiment comme ça. C'est fou, quoi. Et pareil, tout comme on parlait aussi le catalogue, il y a aussi donc, il y a celles qui sont là, qui sont engagées parce qu'elles sont sur le terrain, parce que c'est leur peuple, c'est leur terre. Il y a celles qui viennent de l'étranger. Donc il y en a qui ont fait l'armée, il y en a qui ont dans leur pays. Et il y en a qui débarquent, mais... totalement de nulle part, qui ont l'impression qu'elles vont venir pour faire de l'humanitaire et faire les infirmières derrière, et en fait elles savent pas dans quoi elles s'embarquent. Et là encore, on est du côté de ceux qui respectent les femmes. Il y a les mêmes de l'autre côté, à qui il n'arrive pas exactement la même chose.
Il y a une légère mention de... En gros, quand Zara est achetée par un djihadiste britannique, il vit avec un... Alors, j'ai l'impression que c'est un djihadiste français et sa sœur, et que la sœur, c'est sa femme britannique.
C'est sa femme.
Enfin, la première femme, du coup, et ramène Zara en tant que deuxième femme, je suppose. Et il y a la discussion où le frère dit « Non mais attends, c'est toi qui voulais épouser un combattant. Hein, il y a un moment où t'as choisi cette merde aussi. »
Ouais, voilà. C'était intéressant d'ailleurs de mettre le djihadiste britannique. Mmh. Et j'ai trouvé très intéressant que ce soit lui qui soit développé plus que les autres. Parce que ça nous montre que... Parce qu'ils nous ont pas mis l'archétype de l'arabe qui crie fort. Mmh. Et tu peux tout à fait tomber dans cet écueil-là, tu vois, cette espèce d'imaginaire commun où on se dit bah, « Ça ressemble forcément à ça, un djihadiste. » Et on t'a dit « Mais non, tu vois, regarde le mec, il est caucasien. Il est juste taré, quoi. » Et c'est là aussi que tu vois que le mec, il s'en fout royalement. Il cite deux, trois fois la religion. Non, le gars est juste un boucher qui a trouvé une occasion d'être un tortionnaire. Et ça te montre que c'est des tortionnaires, ces mecs-là, que c'est pas des religieux.
Et comme dit sa femme, les textes, ils disent ce qui les arrange.
Ils disent ce qui les arrange.
Donc, Sœur d'armes, comme quoi, on peut faire un film
d'action français.
D'action français avec un message et qui raconte des trucs et sans faire chier le spectateur. Moi, je dis, on a tout bon sur Sœur d'armes.
Il mérite. Je crois que celui-là, c'est un de ceux qu'il faut aller voir si on aime le ciné, si on a envie de soutenir quelque chose d'importante.
Oui, d'autant qu'on n'a pas parlé des actrices, on a quand même une belle brochette. Enfin, on a donc un beau groupe de femmes, je ne les ai pas toutes citées parce qu'on ne les reconnaît pas forcément.
Il y en a 7-8.
Voilà. On est conquis, voilà, c'est le cas de le dire.
Autant te dire que je désapprouve totalement ton attitude. C'est dégueulasse ce que t'es en train de me faire.
Mais Richard, comment tu peux être aussi jeune? Je suis en train de perdre ma tête.
À quel moment tu m'as prévenu que t'as te comporté aussi salement une fois devenue vieille?
Je suis fou d'inquiétude, là, tu t'en rends compte?
Pourquoi avoir réveillé le passé? Maria.
C'est qui?
Richard vous a jamais parlé de sa professeure de piano? Et si vous décidiez de me rendre celui que vous m'avez pris? Richard! Richard, ouvre pas, Richard! Désormais, mon cœur vivra sous
l'air. Chambre 212 de Christophe Honoré, 1h27, avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Camille Cotin, le sosie d'Ostroskan et Carole Bouquet. L'histoire, quatre Parisiens déblatèrent de la relation de couple dans un appartement et une chambre d'hôtel.
Enfin, 3 dont 1 en 2 exemplaires.
Oui, 3 dont 1 en 2 exemplaires, oui, voilà, oui, bon.
Excuse-moi, c'est quand même la meilleure suite que pouvait avoir Gemini.
En fait, oui, c'est la version parisienne de Gemini Man, c'est ça. Bon, ça parle pendant 1h20, est-ce que c'est aussi verbeux que dans la bande-annonce?
Oui. Mais c'est pas forcément un défaut.
Non. Alors... Oui, vous l'avez entendu, il y avait 4 acteurs dans le film, et bien nous sommes 4 chroniqueurs, donc... Moi, hein, Thierry aussi est là, Karl et Hera nous a rejoint pour Chambre 212, salut Hera.
Ben oui, hein, c'était un film péteux, fallait que je sois là. Voilà.
Donc c'est verbeux, mais tu dis c'est pas forcément...
C'est pas un souci, je vois pas en quoi ce serait un souci que ce soit verbeux. Enfin, ça m'a posé un souci, mais pas dans le sens où j'ai pas apprécié les dialogues, j'ai trouvé que c'était... j'ai trouvé les dialogues intéressants, mais j'ai pas trouvé ça bien écrit pour le cinéma. En fait, Honoré... C'est quelqu'un qui fait aussi du théâtre. Et là, j'ai plus eu l'impression qu'il avait écrit une pièce qu'il avait mise en scène. Parce que ça, au théâtre, ça aurait été assez, assez bien, en fait. Moi, j'aimais beaucoup les dialogues, je les trouvais bien écrits sur le papier, mais pas dans le contexte.
C'est ça, c'est la première chose que je me suis... Au bout de 5 minutes, je me dis, attends, c'est du théâtre qui nous filme, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
Mais ça m'a pas empêché, une fois que j'ai compris ça, de savourer les dialogues et de me dire, ah, ils sont quand même malicieux. Et j'aime bien ce que ça raconte, en fait. J'ai bien aimé la façon dont ça le raconte. Il y a des ressorts un peu de partout, certains qui sont subtils, d'autres non, mais je trouve que ça sert toujours le propos, puisque c'est dans les moments de panique où il exagère ses métaphores et sa mise en scène. En soi, ça m'a pas déplu.
Moi non plus. Mais après, le jour où je me plaindrai du côté verbeux, déjà, faut s'y attendre, c'est très rare. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir au cinéma, parce que c'est rare, en fait, d'avoir du verbeux. C'est rare d'avoir de l'usage de dialogue et d'écriture, de ressorts d'écriture de cette manière-là, qui sont très très littéraires. Donc c'est intéressant. Après, effectivement, c'est du théâtre filmé complètement. Mais pareil, je trouve pas ça nécessairement négatif. J'ai trouvé qu'il y avait quand même évidemment des baisses à pas mal de moments, à pas mal d'endroits, et même au niveau des dialogues, parce que le fait est que on est très vite plongé dans une mise en scène qui est très originale, mais on n'a pas eu le temps vraiment de connaître les personnages et de s'y attacher. Ce qui fait que parfois, ça manque un peu d'intérêt sur ce qui est partagé, et ça va parfois être beaucoup de blabla pour rien. Je me suis quand même beaucoup laissé embarquer parce que c'est assez... c'est original et joli. Donc ouais, pourquoi pas.
Je me suis grave fait chier. Pour moi, le théâtre filmé et verbeux, bah oui, c'est des défauts. Si je veux du verbeux, je lis un bouquin. Si je veux du théâtre, je vais au théâtre. Alors là, étonnamment, pourtant, il y a quelques tentatives de mise en scène, notamment, il adore les plongées bien violentes, quelques effets de style assez bourrins. Et leur vie de couple a l'air très complexe. Hein.
Bah, c'est Chiara Mastroianni qui trompe son mec. Enfin, elle joue Maria, voilà, qui trompe Richard, parce que voilà, avec des plus jeunes, souvent avec ses élèves, parce qu'elle est prof à la fac, voilà. Et finalement, Richard a fini par l'apprendre. Donc petite scène de ménage. Maria va dehors, quoi. Elle se fait virer et elle va, bien sûr, à l'hôtel juste en face pour avoir une vue sur l'appart. Et hop, elle a... C'est dans sa tête, c'est dans ses hallucinations, hein, c'est son rêve, hein, c'est... Voilà. Ah oui, alors... Non, on sait jamais. Parce que ça sonnait tellement premier degré qu'on n'est plus à ça près, tu sais.
Alors, en spoilant la fin, on verra si on garde ou pas, la fin du film, c'était un rêve. Voilà.
C'est la peine de spoiler ça.
Non. Elle tape la discute avec son mari d'il y a 25 ans.
Mais c'est même pas, c'est pas du rêve, c'est sa conscience, c'est sa réflexion intérieure en fait, tout simplement. C'est elle qui réfléchit en imaginant les différentes parts et en faisant plein de scénarios dans ta tête comme tu peux faire quand tu t'es posé et que tu penses à autre chose, que tu pars dans des rêveries, mais elle est totalement consciente de ce qu'elle est en train de vivre. On s'en fout que ce soit un rêve, c'est même pas le sujet en fait. C'est annoncé dès le départ, tu vois bien que c'est dans cette originalité-là. Ça aurait pu partir effectivement dans plein d'autres trucs, mais c'est, tu le sens dès le départ que c'est ça. On s'en fout.
Oui, c'est pour ça que je vois pas un tas de lire.
Quentin Dupieux, ça aurait été vraiment le mari d'il y a 25 ans qui aurait débarqué. Et il n'y aurait eu aucune explication.
Oui, mais c'est c'est sûr. Mais il y a un côté absurde un peu à la Dupieux quand même.
Alors, il y a un côté absurde, c'est juste que chez Dupieux, la plupart du temps, ça me fait marrer. Il y a des moments où ça va. Là, j'ai vu des effets, enfin j'ai vu des scènes qui étaient faites pour être émouvantes. Il y a notamment une histoire autour d'un bébé parce que le perso de Benjamin Biolay voulait des enfants et il se trouve que dans son couple, il n'en a jamais eu. Il y a des vraies tentatives, enfin, il y a vraiment des ressorts comiques qui sont mis en place. C'est juste qu'à aucun moment, un seul de ces effets n'a marché sur moi. C'est les histoires d'un couple, donc elle l'a trompé, lui il est triste, il avait un amour de jeunesse. Et, ouais, donc comme disait Eras, ça va être... tous les scénarios qui peuvent te passer par la tête pendant une séparation. Et c'est chiant.
Voilà, moi j'ai trouvé, alors c'était verbeux, c'était pompeux, que ça en pouvait plus. C'est les dialogues de théâtre, mais pas le théâtre agréable, tu vois. C'est toujours les pas... Pour moi, c'était un supplice chinois. Tu sais, la goutte. Tu sais, chaque dialogue, c'était une goutte. Alors, une phrase un peu grandiloquente et surécrite, bon, ça passe. Mais au bout d'une heure, tu souffres. Hein.
Moi, je trouve ça pas tant gênant, parce que si tu pars du postulat que c'est comme ça, et que tu es dans ce type de cinéma-là qui est verbeux et qui est grandiloquent, donc très théâtral au final, t'es là, ok, bah ça marche, on part avec ça, tu vois. C'est comme si... j'ai du mal à comparer avec autre chose, mais à l'inverse, c'est comme quand t'es dans des films ultra concrets qui vont avoir des dialogues où t'as des gros mots toutes les deux minutes. C'est pas nécessaire, pourtant c'est fait comme ça. Parce que ça veut montrer l'ultra réalisme, là ça veut montrer justement un aspect beaucoup plus littéraire, c'est ok aussi.
D'autant que là où ça aurait pu nous perdre avec justement donc un personnage du passé qui vient discuter avec elle et la potentielle maîtresse qu'il aurait pu avoir qui vient et discute à quatre, ça aurait pu n'être que ça. Et au final, à chaque fois qu'on pourrait tomber dans de la boucle où il va falloir se tenir 1h25 avec des dialogues sympas, mais rien de plus, il y a des personnages qui hantent, il y a de la mise en scène, il y a les passages où tu as les mamans défuntes qui viennent les voir. J'ai trouvé ça assez marrant avec pof des portes dans les portes qui te montrent, c'est les générations passées qui t'observent et qui te disent tu dis des conneries, moi je continue à le juger, là c'est pas normal. Et c'était justement, c'est le moment où on s'y attend le moins, le cadre s'éclate et on voit qu'il y a l'après-cadre en fait. Et du coup je trouve qu'il joue vachement avec ses couches en fait, dans cette espèce de décor qui semble unique au premier abord, mais qui, bah, comme la conscience d'une personne, a beaucoup plus de facettes. Donc je trouve qu'à chaque fois il y avait une manière de montrer en fait, de montrer les choses de manière originale, et qui fait que au moment où tu pourrais trouver ça long, il y a un nouveau ressort qui se met en place et donc une nouvelle lecture qui s'amorce, quoi.
Ouais, mais bon, le nouveau personnage qui arrive pour te balancer une grande vérité, là, ça reste aussi pénible. C'est pas parce que c'est un nouveau personnage qui me la scène que ça change quelque chose.
Ça, je suis assez d'accord que pour moi, enfin, je suis d'accord avec toi, Thierry, dans le sens où c'est intéressant cette nouvelle entrée de personnage, etc. Mais j'ai quand même trouvé ça un peu fade. Je trouvais qu'il allait quand même pas assez loin dans le délire et que justement, quitte à avoir des ressorts absurdes, bah vas-y à fond. Vas-y à fond, fonce vraiment dedans. Et limite, il y a un peu de retenue et parfois un côté un peu précieux qui peut être fatigant.
Chiara Mastroianni a eu un prix, ouais, d'interprétation. Pour moi, c'est le casting entier qui aurait dû avoir un prix, parce que je trouve qu'ils sont tous égaux et tous très bons.
Waouh. Alors, vu le texte qu'ils avaient, c'était pas facile. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il y avait en face pour qu'il y ait eu un prix d'interprétation, quoi.
Je suis assez fan de Vincent Lacoste, de toute façon, c'est un peu un de mes petits chouchous du cinéma français. Et autant je trouvais qu'avec Chiara Mastroianni, le duo fonctionnait pas spécialement à l'écran. Par contre, avec Biolay, j'ai été surprise, parce que Biolay tout seul, j'étais horrifiée, parce que ce mec n'articule juste pas. C'est terrible.
On comprend pas une phrase sur deux.
C'est ça. Mais en tout cas, bizarrement, il y a une scène donc, où donc Benjamin Biolay et Vincent Lacoste sont ivres, et la dynamique entre les deux et le rythme qui est donné, j'ai trouvé que ça fonctionnait à merveille. Donc, c'est-à-dire les deux séparés, pas forcément dans ce film-là, mais les deux ensemble, bizarrement, ça recréait quelque chose d'assez sympa, à mon sens. C'est par ça que j'ai été marqué, surtout en termes de prestations.
Bah, moi, j'aime plutôt bien Biolay. J'ai pas vu de gros pétage de câble au niveau de l'interprétation, mais ouais, pas le prix, faudra revoir ce qui était en face. Pour moi, Vincent Lacoste fait du Vincent Lacoste, c'est-à-dire 90% de ses rôles, c'est il fume des clopes en faisant des commentaires sur ce qui se passe autour de lui.
Ouais, donc zone de confort pour tout le monde.
Chambre 212. Moi, j'aurais laissé la porte fermée à clé, mais bon, tant pis.
Heureusement que nous, on a été là pour l'ouvrir et voir que c'était pas si mal.
On va vous laisser enfermer dedans, hein.
Allez, allô. Tu ne quittes pas les yeux et hop. Allez, attrape, Tonio.
Je te dis que Tonio n'est pas chez les hommes.
Tonio ? Mais qu'est-ce qu'on attend ? Avec moi, le clan !
Sire, sire ! Des bêtes sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la Sicile !
Une invasion de ours.
Massacrez-les !
Clac, c'est aussi le voyage. C'est aussi les amis des animaux. C'est la fameuse invasion des ours en Sicile. Film d'animation de Lorenzo Mattutti, avec plusieurs voix fameuses qui viennent se greffer au casting, comme celle de Leila Bekti et Jean-Claude Carrière. J'ai avec moi Hera, qui, comme toutes les princesses Disney, parle aux animaux.
Salut Thomas.
Je sais très bien ce que tu vas dire, vas-y, balance-le.
Et j'ai Karl, qui, comme tous les ours Disney, parle aux princesses. Salut Karl. Sélection, un certain regard à Cannes 2019, sans déconner.
Ouais, sans déconner.
C'est un duo de saltimbanques qui va trouver refuge dans une grotte en hiver, et ils vont tomber sur l'occupant de la grotte, un ours. Et pour l'amadouer, ils vont lui raconter leur histoire.
Leur spectacle.
Voilà, ils vont présenter leur spectacle, la fameuse invasion des ours en Sicile.
La fameuse dont on a tous entendu parler, hein, quand même, hein, cette grande invasion des ours en Sicile. Donc on était ravis de connaître les détails de l'histoire parce qu'on ne l'avait pas. C'était important. C'était la blague, ouais. C'est un film qui aurait pu s'arrêter quand ils ont capté que l'ours qui était dans la grotte, en fait, il était très sympa et qu'ils n'étaient pas obligés de jouer leur spectacle. Vraiment pas.
Oui, parce que les mecs, ils jouent leur spectacle sans savoir si l'ours, ça l'intéresse ou pas. Mais bon, voilà. Comme l'ours est plutôt mec sympa, il les écoute, il est comme ça.
Et en plus, il est même pas encore exposé à ce moment du film que dans leur monde, les ours comprennent. Moi, jusqu'au moment, pour mini-spoiler, il y a un moment où l'ours répond, jusqu'à ce moment-là, qui donc tu me dis que ça fait 1h22, donc ça arrive à peu près à la quatrième heure, moi, je pensais qu'il parlait pas.
C'est un dessin animé, c'est un conte pour enfants. Enfin, on sait pas vraiment. J'aime bien la direction artistique, j'aime bien le design, je trouve que c'est très joli. C'est assez épuré, on va dire, simplifié. Ça me fait penser au jeu Dixit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de cartes où il faut faire deviner un mot avec des cartes illustrées justement par des dessinateurs professionnels. Fait, c'est très onirique, j'ai envie de dire, comme dessin. Là, ici, on est sur quelque chose de plus terre-à-terre, même s'il y a un peu de magie. Donc, j'aime beaucoup cette direction artistique. Par contre, il y a un souci. C'est adapté d'un bouquin et je sais absolument pas à qui s'adresse ce film. Vu les dessins, je pourrais penser à des enfants. Vu l'histoire, vu le ton employé, on pourrait toujours penser à des enfants parce que c'est pas vraiment un truc qui intéresserait beaucoup des adultes. Mais dans le traitement et dans le blabla permanent et le rythme et le ton, Et beaucoup de choses, en fait, je me dis, mais en fait, en quoi ça intéresse des enfants ?
En quoi ça intéresse des enfants et en quoi est-ce que ça intéresse des adultes ? Qui est-ce que ça vient intéresser ? On est sur un film d'animation donc extrêmement bavard, mais qui ne va pas aller taper dans de la profondeur. On peut supposer quelques métaphores sociétales, mais on les suppose, on ne va jamais dedans. Donc l'histoire, donc effectivement on parle du duo de saltimbanque, et une fois qu'on rentre dans cette histoire des invasions des ours, il y a comment est-ce que les ours sont sortis de la forêt, ont tenté d'aller parler aux humains, humains agressifs parce que ne comprennent pas l'autre, donc décident de l'attaquer directement.
Méchants humains.
Méchants humains. Donc on va aller voir comment est-ce que les ours vont finalement réussir à s'entendre correctement avec les humains, créer un monde où finalement bah, ça dénature l'ours en lui-même, l'animal sauvage, et il y a une forme comme ça de perdition. Donc on peut y voir un peu ce qu'on y veut. Moi j'ai choisi d'y voir un espèce de rapport à la colonisation, au côté sauvage, non sauvage, à au fait de s'adapter à une autre culture. Mais j'ai décidé de le voir comme ça, c'est ni dit, ni... et si c'était ça le sujet, ça n'allait pas, ça ne va absolument pas au bout de ce sujet-là non plus.
Oui, d'autant que ici, on parle de colonisation, moi ça m'a fait penser au mythe du bon sauvage. Et à la différence qu'ici, c'est le bon sauvage qui envahit la civilisation par la force des choses, et qui se laisse corrompre, et qui se fait corrompre par la civilisation.
Non, justement, c'est assez rousseauiste, parce que pour Rousseau, l'homme naît bon, et il est perverti par les travers de la société, sauf Rousseau lui-même, parce que lui-même est au-dessus de tout le monde dans la pensée rousseauiste. Ce qui est un problème, parce que devant un dessin animé dont je ne sais pas s'il est pour les enfants, je ne devrais pas avoir le temps de me dire que c'est rousseauiste, en 1h22, même si ça paraît 8.
C'est ça, mais en fait, c'est en deux parties. Il y a la version des saltimbanques, qui est la version officielle de l'histoire, et puis il y a l'ours qui fait « Ouais, mais alors attendez, moi j'y étais, je peux vous dire qu'en fait, il s'est passé ça aussi. »
Il y a surtout un truc à faire au niveau de la manière dont les animations sont mises. Il y a un espèce de mélange de techniques entre images de synthèse, dessin, je ne saurais pas dire quoi trop d'autre, peut-être ouais, de l'animation 2D sur du dessin à la tablette, ça c'est sûr. Donc il y a un mélange de techniques et il y a beaucoup de magie. Donc comme disait Thomas au début, c'est vrai que c'est très onirique, très magique. On a d'ailleurs un personnage de magicien qui détient un peu le clou de cette histoire. Et ça aurait pu être tellement plus exploité que ça, c'est fou. Il a un rôle à moitié de traître au départ, parce qu'il essaie de satisfaire son roi, mais en même temps, au fond, il veut aider les ours. Au final, il se rallie à la cause des ours, il devient l'assistant du roi, donc bon, le mec un peu opportuniste sur les bords, clairement. Ses pouvoirs magiques sont sous-exploités, c'est-à-dire qu'il a une pauvre baguette magique où il reste deux sorts, donc déjà la loose. Et ça va limiter énormément tout ce dans quoi le film aurait pu partir. Bon... Après, c'est comme d'habitude, hein. Soit on vient critiquer effectivement le scénario de base, et dans ce cas-là, il y a plein de choses à dire, soit on se fie à ce qu'on a vu. Et dans ce cas-là, c'est vraiment dommage, parce que ça pourrait nous emporter quelque part, on pourrait vivre pas mal d'aventures, et au final, pas tant que ça. Et même le peu d'aventures n'est pas tant mis en scène. Donc cette sous-exploitation de la magie, on retrouve aussi une sous-exploitation scénaristique générale, c'est-à-dire qu'on entame des histoires qui ne finissent jamais réellement. On va avoir un gros suivi, une grande trame, qui parle beaucoup de trahison, de rapport à soi. Et encore, c'est moi qui crée ça autour de ce que j'ai pu voir, parce que c'est pas tant exploité et c'est pas tant dit. Donc c'est vraiment un conte, et c'est là qu'on se perd, parce que ça... Effectivement, on n'arrive pas à savoir si c'est pour enfants ou pour adultes, et cet entre-deux rend pas du tout le film facile à lire, ni agréable à lire.
Et moi, mes deux exemples, c'est en fait, il y a deux séquences, tu sais, montage avec une musique, un peu des clip shows. Enfin, non, c'est pas un clip show, puisqu'on remonte pas des trucs qui existent déjà, mais tu sais, des montages sur de la musique où on voit, bon, les ours dansent tout le temps, mais on les voit danser, on les voit soit envahir une forteresse ou quoi. Et là, c'est vraiment, ils font des délires sur les transitions, sur les montages parallèles, où là, il y a vraiment des idées de réalisation, de montage. Et moi, c'est les deux moments où j'ai un petit peu kiffé, ou même si c'est du porte-nawak absolu, où je me suis même marré tellement c'est con, je me suis dit, ah putain, il y a un graphiste qui s'est fait plaisir, là, il y a un animateur qui s'est dit, ouah, c'est ma semaine, là.
Non, c'est ça, je pense que bon point du côté animation et design, mais après, sur le reste, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est le film qui vise les parents responsables, tu sais.
Non, parce qu'il y a quand même des guerres, il y a quand même des morts.
Oui, alors ben ça aussi, il y a un truc qui est assez bizarre. Il y a une scène de bataille qui est, mais alors, un truc assez incroyable. C'est deux poids, deux mesures. Première scène de bataille, donc les hommes tirent sur les ours parce qu'ils ont des fusils, donc ils tirent. Donc on voit pas un ours touché, blessé, quoi que ce soit.
On voit un mourir, on voit le vieux mourir qui revient en fantôme spermatozoïde.
Voilà, donc il tombe mais il est pas touché, mais bon, on le voit tomber. Par contre derrière, il y a les ours qui t'envoient des boules de neige. Alors au début c'est des boules de neige, mais ça, effet boule de neige, ça devient des boules géantes de mégatonnes et qui écrasent des soldats par paquet de 12. Et ça, par contre, il n'y a aucun souci. Là, il n'y a pas de problème.
Bah écoute, tous les Stormtroopers qui sont morts sur l'étoile noire ne méritaient pas de vivre.
Quand le magicien leur envoie des fantômes soi-disant pour leur faire peur, les mecs, ils sont trop contents parce qu'ils revoient leurs potes qui sont morts. Et j'ai trouvé ça assez joli parce que là, au moins, il y avait un rapport à la définition de la tribu des ours. Donc ce côté, on est hyper courageux, on a peur de rien, on est en groupe, on est en famille, on est des ours. Et ce que j'aurais bien aimé voir, c'est qu'on me montre ce clivage, le moment où les ours débarquent dans le monde humain et que les deux sont mêlés. J'aurais aimé qu'on me montre le gros clivage qu'il y a entre les deux communautés, autrement que juste en montrant que oh, les humains se bourrent la gueule et jouent au jeu, et oh, le méchant petit ours va devenir comme eux.
Et les ours, ça pêche du poisson dans la fontaine.
Voilà, dans une fontaine, bien sûr. Il y a juste une volonté d'exploitation d'idées de mise en scène et d'idées d'animation, et pour servir ces idées d'animation, on va caler un scénario dessus. Même si sur le papier, c'était d'abord un roman avant de devenir un film. Mais on sent que, encore une fois, on en parlait dans le dernier claque, encore une fois, si tu passes d'un roman à un film, il faut changer des choses.
Bien, face à l'invasion des ours, l'équipe de claque résiste. Nous quittons la Sicile.
So you were there when he was attacked?
I was upstairs on the crime scene. Buzz was down on the fourth floor with the suspect.
We just apprehended a man on Tucker Street.
Are you Farouk Harris?
Officer down.
Petite interlude cinéma en ligne, mon cher Thierry. Film policier, film espionnage, on peut le dire. Non, pas du tout. Film que policier, attentat, terroriste.
Ouais, c'est pas l'attentat terroriste, mais il n'y a pas de policier. Pour autant, il y a la CIA, mais est-ce que c'est de l'espionnage ?
Plus à y voir, Domino. Domino, la guerre silencieuse. Le dernier, Brian De Palma, qui ne sera disponible que en cinéma virtuel, en ligne.
Ouais, donc on a eu la chance en fait d'être invité à la projection presse chez Metropolitan, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à le voir. Moi, j'ai accepté parce que je savais justement que ça allait pas être dispensable et que... Enfin, sale, pardon, du coup, que... On n'allait pas pouvoir le voir ensemble. C'est un film qui est déjà sorti le 31 mai, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, et qui va sortir le 12 octobre en VOD chez nous. Moi, j'avais trouvé ça assez inadmissible de me dire que, quand même, quand tu t'appelles Brian De Palma en 2019, c'est triste de ne pas avoir un film qui est distribué en salle. Et au final, même quelle que soit la qualité du métrage, je veux dire, c'est le mec qui a quand même une renommée, quoi. Et même si Passion, son dernier en 2012, ne m'avait pas excessivement convaincu, ça reste De Palma, ça reste le mec qui a pondu des énormes chefs-d'œuvre, il a un nom, voilà. Donc du coup, voilà, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait proposer, pourquoi est-ce que c'est en VOD, alors je sais pas si c'est lié. La guerre silencieuse est un beau nom, enfin un beau sous-titre, même si c'est le sous-titre français uniquement, parce que tu sens les galères de production à tous les instants, ils sont allés tourner dans plein de pays différents, bon au final ça sert le propos, tu sens que c'est fauché. Et le problème c'est que c'est pas bon. C'est pas bon du tout, alors au final c'est pas plus mal que ça sorte pas en salle, parce que le film n'a aucun intérêt. On ressent les gimmicks de De Palma, donc tu vas ressentir à peu près tout ce qui fait son cinéma. T'as un split screen à un moment, t'as sa musique, c'est Dino, je sais plus qui, c'est son compositeur qui a bossé énormément avec lui, je crois sur 8 ou 9 films, donc qui a beaucoup bossé avec lui, qui vient faire la BO, qui met à la masse totalement. Il y a aucun moment où tu trouves que la musique colle. T'as l'impression d'avoir les petits sursauts de saxophone de L'Arme Fatale dans des situations dramatiques. T'as ses plans toujours alambiqués, alors il essaye de faire des choses à la mise en scène, mais au final... C'est plus de l'exercice de style, quoi. C'est plus De Palma te montre qu'il sait faire toujours du De Palma, mais il sait plus comment le faire en fait. Donc du coup, il ressuce tous les plans qu'il a déjà fait, sans grande originalité, et ça ne sert jamais son propos.
D'accord. D'accord, ok. Et il n'y a pas un acteur pour sauver, pour sauver l'histoire. Je crois qu'on a Nicolas Coster-Waldau, qu'on a vu en Jamie Lannister dans Game of Thrones. Caprice Van Houten de Game of Thrones aussi, Mélisandre. Et puis après, on a quoi ? On a Nicolas Brault, Soren Manning, Guy Pearce. Ouais.
Alors au niveau du casting, ça, on va pouvoir revenir vite fait sur l'histoire. Donc en gros, l'histoire concrètement, donc, c'est un flic qui est joué par Nicolas Coster-Waldau qui va oublier son arme de service dans son appartement. Avec un magnifique gros zoom sur l'arme quand il est parti avec la musique dramatique qui s'accentue. Voilà, c'était marrant au début, je fais « Ah tiens, cool, du De Palma !» Après, j'étais moins content. Et donc en gros, voilà, il oublie ça et ils reçoivent un appel à la CBI, ils vont chez quelqu'un pour une affaire de violence conjugale. Ils vont se retrouver devant un mec qui a du sang sur les bottes, donc du coup, ils vont se douter que c'est le gars en question. Au final, c'est pas lui, c'est un gars qui est venu là et qui a tué les personnes à l'intérieur de l'appartement. On ne sait pas exactement pourquoi, donc ils vont l'arrêter. Sauf que du coup, Nicolas va demander l'arme de son collègue pour aller enquêter dans l'appartement, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, un complice ou quoi que ce soit. Donc du coup, son collègue va rester avec le gars qu'ils ont arrêté, le gars qui va réussir à se retourner et qui va lui trancher la gorge.
C'est ballot.
Lui, il va en faire une vendetta personnelle, il va remonter, donc ils vont se rendre compte qu'en gros, le gars veut se venger d'un terroriste, enfin d'un ponte de Daesh qui a tué son père. Et ils vont, et au même moment, donc ce ponte de Daesh est en train de faire créer un nouvel attentat. Enfin, deux attentats suicides, un au Danemark et un en Espagne. Donc en fait, on va suivre, ça va être légèrement choral, on va suivre le gars qui veut retrouver l'assassin de son père, on va suivre donc le gars qui veut retrouver l'assassin de son collègue, et on va suivre le pont de Daesh qui est en train de monter son attentat. C'est hyper maladroit tout du long, donc Nicolas Coster-Waldau est mélancolique tout du long, il se débrouille comme il peut, le personnage est tellement inconsistant, il n'y a aucune définition de personnage, on le voit en gros se taper sa nana au début de l'appart, c'est-à-dire dire « il est en couple, il est posé ». Voilà, et en gros, on va légèrement développer son collègue en mode « Ah, il avait une aventure, ça te saute à la gueule comme ça ». Donc l'aventure, c'est Caris Van Houten, qui est une autre flic qui vient pour enquêter avec lui et qui au final lui fait en plein milieu du film « Oui, mais j'étais aussi sa maîtresse, donc du coup, je l'aime, donc moi aussi, j'ai un truc personnel à régler ». Elle devient donc un intérêt amoureux et elle n'a aucune compétence policière, en tout cas visuellement, donc c'est ridicule. Et Guy Pearce joue un agent de la CIA qui va récupérer le fameux assassin du début pour justement remonter lui aussi le truc en mode bah, ce mec-là peut m'aider parce qu'il est plutôt bon. Le seul truc qui est sympathique, c'est Guy Pearce, parce que Guy Pearce surjoue comme toujours, mais vu que De Palma a un cinéma qui est toujours très exagéré, très tape à l'œil, très pétant, bah, ça sert le propos. Et ces scènes, elles sont beaucoup trop courtes. Donc le reste du temps, on s'emmerde. Il se passe rien. C'est cliché à souhait. Ça n'apporte rien du tout. Le seul truc, à la limite, que j'ai trouvé intéressant, c'est on voit à un moment, le split screen, c'est l'attentat suicide en question, qui après est relayé en vidéo, genre de son espèce de YouTube du dark web. Et là, à la limite, on peut se dire, ok, les terroristes arrivent à asseoir leur règne de terreur par la vidéo en arrivant à mettre en scène ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui fascine De Palma. C'est ce qu'il disait dans les interviews, c'est que ça lui faisait peur. Donc ça, sur le côté, les gens mettent aussi en scène, il y a un drone qui filme l'attentat suicide pour pouvoir montrer à quel point, regardez ce qu'on est en train de vous faire et on vous le montre. Ça, c'est intéressant. C'est dommage que ce soit pas développé, quoi.
Ouais, donc en gros, ça vaut pas plus que le streaming, quoi.
Non, mais en fait, t'as l'impression de voir un film d'action en direct ou DVD que tu trouves, mais toutes les semaines, quoi. Et de se dire que c'est De Palma qui a fait ça, alors c'est pas lui qui a écrit le scénar, là il est sur deux projets qu'il écrit, j'en attends un peu plus, mais oui, moi, ça m'a énormément déçu d'avoir attendu 7 ans un mec, de m'être jeté sur la Projo Presse en mode putain trop cool le nouveau De Palma, et de repartir de là en se disant putain j'ai eu l'impression de voir un étudiant de ciné qui a filmé un film naze à la manière de De Palma quoi.
Oui. Bon. Bah écoutez, ouais, je crois que là ça va être un peu compliqué le De Palma, hein. Domino tombe comme des dominos du coup. Nous par contre on va aller en salle parce que le film commence.
Vous connaissez mon parcours ?
Je sais que vous êtes un homme politique, vous êtes le maire de Lyon.
Ils ont payé le prix.
Le maire, il va bien ?
Ouais.
Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour.
Non. Oui.
Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ?
Alice Eman.
Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser.
Alice et le maire de Nicolas Pariset avec Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. L'histoire d'Alice qui est recrutée comme conseillère en idées prospectives à la mairie de Lyon. Alors vous ne savez pas ce que ça veut dire comme poste, eh bien personne ne le sait en réalité. Et elle va être prise dans la machine infernale de ces grosses administrations, de collectivités locales ou même autres administrations entre autres, et mêlée aussi à la politique, malgré elle. On va découvrir avec elle ce milieu ubuesque, un peu kafkaïen presque, flou, flottant. Et un voyage parmi le désarroi, le flottement, le flou de l'élite.
C'est aussi le film, là.
Ouais. Vas-y, enchaîne. Je suis influencé.
Je vois qu'il essaie d'être verbeux.
Ben, parce que je suis influencé par ce film. Je suis avec Thierry. Salut Thierry.
Coucou.
Je suis avec Hera.
Salut.
Et je suis avec Karl.
Salut.
Au début du film, quand on a le personnage donc, d'Alice qui se fait attribuer son nouveau poste, où on lui explique qu'en réalité, elle avait été engagée pour quelque chose d'autre. Elle s'est d'ailleurs déplacée de l'étranger pour ça. Donc on lui explique qu'en gros, le poste a été supprimé, mais qu'on en a créé un juste pour elle parce que ben, on l'a fait venir, c'est un petit peu mal vu. En gros, au tout début, ils disent clairement, on va juste se débarrasser de toi, on sait pas quoi foutre de toi, on va te mettre là. Et il y a des gens qui ont rigolé dans la salle, et toi, tu m'as regardé, tu m'as dit, c'est marrant parce que ça marche vachement bien sur le papier. Mais là, tout de suite, je trouve ça un peu
mal amené.
Eh bien, moi, j'ai pensé à peu près ça de tout le film. J'ai trouvé que sur le papier, même si des fois, on était un petit peu trop perdu, bon, ça veut jouer avec ça, hein, pas de souci. Ouais, sur le papier, ça peut être hyper intéressant. Mais dans le ressenti, c'est pas spécialement foufou, quoi. Parce que toute la mise en scène est très plate, les dialogues sont trop verbeux en voulant l'être, mais ça fonctionne pas. Et c'est surtout ça le gros souci. Mais il y a un fond qui est potentiellement intéressant.
Bah, c'est un film qui, alors, qui aura deux thématiques principales, la politique et l'intellectualisme.
Surtout l'intellectualisme, je pense. L'élitisme. L'élitisme intellectuel.
Bah, en fait, justement, c'est assez flou. Je ne saurais pas te dire exactement si c'est ça, alors, ou pas.
Ma vision du film, c'est justement... C'est sur le flou de l'intellectualisme, enfin, c'est sur le flou de l'élite intellectuelle de gauche. Parce que c'est surtout cette photo-là qu'on a. On a les politiques de gauche, on a les com, pas les commerciaux, les communicants de gauche, on a les politiques, on l'a dit. On a, entre guillemets, la philosophe. On a les comités de réflexion, les think tanks. On a l'artiste aussi de gauche. On a tout ce monde-là, toutes ces élites différentes, mais qui se parlent entre elles et qui sont complètement déconnectées de la base. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque aussi. Il y a un mec qui est censé représenter la base, mais qui lui-même est déjà assez haut parce que c'est quand même le chef d'entreprise, même si c'est un petit chef d'entreprise. C'est pour montrer la déconnexion et le flou qui règne dans les élites.
Et puis c'est le genre d'éventail de personnages qui te fait demander comment la droite peut gagner quoi que ce soit. Il n'y a que des gens de gauche dans ce film. Et qui font que discuter de leurs opinions, de leur rapport entre leurs opinions et les bouquins qu'ils lisent, de la philosophie, parce que la meuf là, elle est engagée pour réentraîner un petit peu Fabrice Luchini à la philosophie. Et vers le début du film, il parle d'une idée qui est que la gauche se perd quand elle se coupe des masses du peuple. Et c'est exactement le genre de film qui fait ça. C'est exactement le genre de film qui va te dire que c'est bien d'être de gauche, comme l'expliquent Spinoza et Hobbes et Rousseau et machin. Sauf que bah, les prolos, ça leur parle pas. Ils en ont accessoirement rien à foutre.
Et d'ailleurs, ils le montrent parce qu'ils partent sur un projet complètement délirant, Lyon 2500. Et donc, on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais ça parle juste de 2500 d'histoire, 2500 d'hier. Hein, tu vois que les mecs de la com ont bossé quand ils te sortent une connerie pareille. Et comme ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils font une enquête marketing, donc ils font une réunion avec des gens, ils leur montrent des photos, enfin un panel, ils font un échantillon. Et en fait, les mecs, enfin, ils savent pas ce qu'on leur montre, quoi. Et ça leur parle pas et ça montre cette déconnexion. Je pense que c'est un film qui montre des gens déconnectés, qui sont dans leur bulle, dans leur flou et qui sont déconnectés aussi.
Après, faire un film qui ne s'adresse pas forcément à la jeunesse actuelle, moi ça me dérange pas tant que ça. C'est pas mal aussi de faire un film qui essaie de parler aux bobos intellectuels de gauche qui a besoin de se faire secouer un grand coup. Ce genre de film, même si c'est très mal amené, peut potentiellement y arriver sur le papier. C'est vrai qu'après, vu qu'il a la prétention de vouloir parler aussi à la gauche du peuple, là il le fait extrêmement mal. Mais tout n'est pas forcé d'être un truc comme le brio ou ce genre de truc où justement on va essayer de parler en mettant de la diversité. Là, pourquoi pas, on peut aussi avoir une autre cible. En fait, moi j'ai l'impression que ça représentait énormément le fossé, et ça pour le coup c'est pas trop mal fait, entre le politicard qui a encore une envie de conviction mais qui sait plus du tout comment la retrouver et qui a besoin en fait de s'entourer de quelqu'un qui peut peut-être lui donner de la force et une envie de militer en fait, puisque c'est ce qui l'intéresse. Il arrive à un tournant de sa vie où, à part l'unitantisme, il ne lui reste plus rien et il veut y repartir parce qu'il l'a trop abandonné. Et les gens autour de lui qui sont juste des calculateurs, en fait, des gens qui calculent comment avancer et qui vont même demander à un moment à Alice qu'il commence à le réveiller un petit peu, de laisser tomber ce mec-là, en mode non, il faut que ça redevienne une larve à notre service pour qu'on puisse l'emmener dans les strates plus hautes. Voilà, donc c'est un peu le fossé aussi entre le véritable but de la politique qui est à la base de militer pour des idées et le calcul politique qui est la politique depuis 30 ans, quoi.
C'est marrant parce que moi, je vois pas le film parler de ça spécialement, de tout ce qui est élitisme. Je trouve que l'élitisme, c'est le fond. Je pense pas que ça en soit le sujet. Le sujet, pour moi, par contre, c'est la perdition que tu as, même quand t'es dans ces milieux-là. C'est que ce soit la nana, donc Anaïs Desmoustiers, ou le maire, on a un peu moins de vision des autres gens, mais on a quand même 2-3 autres personnages, ils ne vont pas bien, ces gens. Donc c'est le summum de la dépression, c'est-à-dire qu'ils sont tous extrêmement fatalistes, voire défaitistes par rapport à la vie et l'avenir du monde, admettons. Pourtant, ils sont dans les milieux politiques, mais ils ont perdu tout sens de leur vie, ils n'ont plus envie d'avancer, et en prime, ils font ça, même s'ils ont cette intelligence-là, même s'ils ont ce contact avec les philosophes, même s'ils ont ces connaissances-là, ça leur permet pas de rendre leur vie meilleure. Et pour moi, c'était plus de montrer la vacuité de l'existence, en fait. Et à quel point tout est vide et comme tu dois te raccrocher à des mots pour essayer de trouver une raison d'être. C'était limite plus ça, en fait, le sujet. Après, le fond, effectivement, c'est pour parler aux élitistes et ça va parler aux snobs et aux personnes qui vont au cinéma, les personnes télérama, j'ai envie de les appeler un peu. C'est ok parce que c'est un support de discours, en fait. Ça aurait pu être ça, comme ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être dans pas mal d'autres endroits. Là, c'est ce qui a été choisi parce que ça collait à l'utilisation de la philosophie. Mais je ne vois pas là un film dénonciateur.
Alors la philosophie, après, c'est vite dit parce qu'elle a fait des études de lettres, elle a donné 2 cours de philosophie dans sa vie. Du coup, on pense que c'est une philosophe parce que justement dans ce milieu-là où tout va sans à l'heure et évidemment il n'y en a pas un qui a ouvert un bouquin, c'est la philosophe de service.
Surtout que le film préfère citer des philosophes que d'approfondir des idées.
Est-ce que c'est le principe et c'est ce qu'ils disent dans le film, hein.
Et bon, d'ailleurs, ça on l'a pas précisé, je pense que c'est assez évident parce que c'est l'un des défauts des films de Lucchini. Tous ces développements-là ne sont faits que par les dialogues, souvent par des longues tirades et c'est jamais par la mise en scène.
Le verbe, on s'attache au verbe, mais on est sur le pignolage aussi, sur une tournure de phrase, sur la taille du bureau, sur ce genre de trucs. Enfin, on est sur les mesquineries aussi des hautes sphères. On croit que ça va parler de autre chose, et en fait, non, c'est que des mesquineries sur des conneries, et on va envoyer... La nana avait fait quoi ? Elle avait fait elle était normalienne, du coup. Elle était normalienne, du coup, quand les normaliens gueulent parce qu'il y a un problème, c'est elle qu'on envoie, mais elle connaît pas le dossier. C'est pour montrer un peu le c'est ça, on parle de bouquin, mais en fait, on doit tout résumer, mais intellectuellement, c'est étouffé, quoi.
Mais c'est vraiment que ça, basé sur du verbe et de la tristesse mélancolique et un peu éventuellement d'action politique, encore que, parce qu'on connaît pas ses idées à ce mec. On s'en fout, en fait, de son mouvement politique et de ce qu'il veut faire ou non faire, parce qu'il parle vaguement de sa carrière.
Mais justement, le truc, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'idée. Ouais. On est chez des socialistes, on parle de lutte des gauches, enfin, de lutte et de progrès, de tout ce que tu veux, mais en fait, il n'y a pas d'idée, c'est juste des mots qu'on accroche. Et c'est aussi un des points du film, c'est de dire qu'on fait tout ça, mais finalement, c'est creux, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'âme. Et c'est d'ailleurs ce qui déprime d'ailleurs le maire en question, et ce qui déprime la jeune fille, la Alice, c'est pas son élément non plus.
Le film rajoute en plus naturellement des passages où par exemple on va lui dire tiens, le maire veut te parler, elle va avancer, quelqu'un va la suivre, quelqu'un va l'interpeller, ah oui au fait, est-ce que t'as parlé à machin de la com qui a dit ça, ah oui très bien, et ça part. Alors c'est des moments où vraiment on se disait putain ça sert à rien de mettre tout ça, et au final oui, ça agrémente au final le récit, ou en montrant que de toute manière tu es trimballé quand tu bosses là-dedans jusqu'à l'épuisement et que
t'as pas le temps de réfléchir.
C'est ça. Et même le passage où justement ils disent qu'ils ont une fête de tir, le maire doit prononcer un discours à telle heure, finalement lui il veut patienter un petit peu et les mecs arrivent en mode bon tu l'as pas fait, va te faire foutre, on passe à autre chose et toi tant pis pour ta gueule. Et t'as un mec qui arrive qui va le voir qui fait alors le chômage. Et parce que c'est comme ça, en fait tout s'éteint en un clin d'œil.
Ouais, moi je trouve que dans l'ensemble c'est très pertinent. Si c'est certes très verbeux, mais quand on tend l'oreille, le fond est très pertinent sur beaucoup de points, peut-être pas tout à 100%, mais c'est très pertinent. Le problème, c'est que c'est pas appuyé, il n'y a pas une caméra derrière qui vient l'aider, et même la prise de son, par moment, elle est un peu à la ramasse, quoi. Surtout le début, quand il y a de l'écho sur la discussion avec Noram Zawi, qui lui explique un peu la situation, Anaïs Desmoustiers, elles sont dans un grand bureau, il y a de l'écho, il y a de la réverb, on n'entend pas des masses, et derrière, il y a une scène avec du monde, et c'est, je sais plus, la secrétaire ou l'assistante ou le bras droit du maire qui parle à Alice, à Anaïs Desmoustiers, et on ne comprend pas ce qu'elle dit parce qu'il y a trop de bruit de foule, quoi.
C'est pas vraiment un réel problème, mais la manière dont on va te montrer l'avancée des personnages dans ce film, c'est parce qu'on te dit qu'ils avancent. On ne te montre pas qu'ils avancent. On te dit, c'est bien, tu fais progresser le maire, c'est bien, il a changé grâce à toi, c'est bien, il y a eu tel et tel changement, tiens, on t'a donné un nouveau bureau. On te le dit, mais on ne te le montre pas. Il n'y a pas de réel développement et de réelle avancée. Au bout de, à un moment dans le film, je pense que c'est au bout d'une quarantaine de minutes, il y a quelqu'un qui parle au personnage d'Anis Desmoussiers et elle répond qu'elle est là depuis 3 semaines. Moi, je croyais que c'était le lendemain. Sincèrement, je vois pas le temps passer, je vois pas l'évolution,
ouais,
en fait.
En même temps, quand t'es chamboulé toutes les 5 minutes et qu'on va chaque fois te chercher pour un nouveau problème, au bout de 3 mois, t'as l'impression que c'est le lendemain, quoi.
Il y a pas une vraie impression de conséquence, sauf un moment à la toute fin. Mais ouais, sinon, vu que tout est balancé à peu près comme ça, bah, même au niveau, je reviens sur le côté poétique et philosophique, on doit assister à une période d'à peu près un an et demi, comment savoir en vrai. Parce qu'en fait, c'est juste après l'élection présidentielle de 2017 et ils vont jusqu'à à peu près l'annonce du prochain candidat PS. Donc, ouais, quelque chose genre 2 ans, 2 ans et demi. On voit pas les changements que ça fait dans la ville. On dit juste les changements que ça fait sur 2 ou 3 personnages et encore pas tous. Sinon, la majorité ont un archétype et le garderont plus ou moins jusqu'à la fin. Moi, par exemple, ce qui m'a manqué, ça aurait été une scène où... Tu sais, il y a quelqu'un de Lyon qui va voir le maire et qui lui fait « C'est super Spinoza, j'en ai rien à foutre, comment vous faites pour sauver mon magasin ?» Et que, tu sais, t'es une scène où, vraiment, dans un truc où tu parlais de la vacuité et tout ça, vraiment, on se pose la question, est-ce qu'on pose les bouquins de Rousseau et de Voltaire sur le côté et qu'on se concentre sur le magasin là, ou est-ce qu'on continue à...
Ouais, mais c'est pas ce que le film dénonce, puisque ça parle vraiment de ce vide-là. Donc si t'avais une scène un peu de... C'est pas de l'action, mais si t'avais une scène avec quelqu'un qui vient essayer de déclencher quelque chose de concret, je pense que là, le film serait peut-être perdu dans son propos. Mais je suis d'accord avec toi que ça aurait fait du bien.
Tout passe par le parler aussi. Mmh. Et si la mise en scène est un peu aux fraises, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le parler. Et du coup, c'est dommage que ça soit pas appuyé. Et même si c'est difficile à faire, ça aurait pu être un bouquin. Mmh. Ça aurait été très bien. En film, c'est compliqué, quoi.
Ce que tu dis se répercute à un moment sur une ligne de dialogue où tu as le passage où justement il veut écrire son dernier discours et réprouver celui qu'on lui a fait naturellement par la boîte de com et avec lequel il n'est pas spécialement en accord, même s'il le trouve bien foutu. Et il demande du coup à Alice de rester avec lui. Et la chef de cabinet passe un appel en partant à sûrement quelqu'un d'important et elle lui dit il est tout seul en train de faire son discours, en mode il est hyper motivé, il fait son discours seul. Donc du coup, le côté, on va masquer le fait qu'il est en train de se faire aider pour pas dire que justement, il va pas forcément bien, qu'il a pas l'idée, quoi. Donc ouais, le côté, on masque et on essaie de sauver les apparences quoi qu'il arrive et de faire passer son candidat pour le roi soleil, quoi.
Alice et le maire sont en ballotage. On n'y va pas ? Enfin, on n'y retourne pas ?
Nope.
Non. Bah, ils sont censés être du PS et je vous renvoie au résultat du PS lors de la dernière élection présidentielle.
Voilà. Hein. Thierry, une belle semaine, encore une fois.
Ouais. Une semaine surprenante même. Surprenante dans le sens où deux personnes dont j'attendais le moins ont été les deux personnes qui m'ont le plus surpris. Je suis pas un immense fan de Christophe Honoré, bien au contraire, et j'ai quand même passé un très agréable moment devant Chambre 212. Et Caroline Forest, on m'avait pas mal dépeint la personne, je m'attendais à quelque chose d'assez mauvais, et finalement j'ai été plutôt agréablement surpris.
Le truc, c'est qu'un film comme Sœur d'Armes, quelque chose me dit qu'il va être écrasé par Joker, je sais pas pourquoi.
Ah ben non, le film de la semaine, concrètement, nous on l'a vu en avant-première, donc c'est ça, on en a parlé la semaine dernière, mais ça reste Joker. Hein. Et à juste titre, c'est un super film.
D'ailleurs, ouais, il est dans l'épisode précédent, épisode qui marche plutôt bien, merci à vous de nous écouter, d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne du courage pour continuer. Si vous êtes sur Paris, vous nous verrez peut-être à la soirée Podcastéo et au Festival du Podcast en ce moment. On passera à faire coucou, mais on n'a pas de stand, on n'a pas de live, même si on a quelques copains qui font des lives.
Mais on aura Octave, donc vous pourrez nous reconnaître.
Ouais, vous nous reconnaîtrez à Octave, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous nous verrez. Vous pouvez retrouver Octave sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. Laissez un petit commentaire, un petit mot, un petit message, commentez l'épisode ou les films pour nous dire ce que vous avez pensé, et partagez également pour nous faire connaître un peu plus, et partagez l'épisode autour de vous si vous avez apprécié. Laissez aussi un petit mot sur votre application de podcast. Ça nous donne de la visibilité, ça nous permet de faire connaître l'émission à plus de personnes encore. À la semaine prochaine. Gros bisous à vous.
Bisous, bisous.
Bisous.
Non. Bah, ils sont censés être du PS et je vous renvoie au résultat du PS lors de la dernière élection présidentielle.
Voilà. Hein. Bah, cela dit, le coup de la com...
Ah, non.
Pas de...
Là, je viens de te faire vraiment l'écho des fans d'Amon, ils sont plus que deux.
Moi, j'en peux plus.
À voter.